si on vous parle d'un joueur qui a raté ses playoffs la saison dernière. Même si certaines mauvaises langues pourraient se tourner vers les Lakers ou les Nets, difficile de ne pas spotter les Sixers avec Ben Simmons. Face à Atlanta, l'Australien aurait été l'ombre du joueur qu'il est depuis le début de sa carrière NBA, à tel point qu'à la sortie de la série, le constat est sans appel, Ben Simmons pourrait peut-être ne jamais reporter le maillot de Philadelphie. Mais alors, où le faire atterrir? Quelle franchise serait capable de proposer des contreparties assez intéressantes pour les Sixers? Et surtout, est-ce que Ben Simmons va retrouver son niveau dès la saison prochaine? Vous écoutez la deuxième partie du premier épisode du Quart-Temps, votre podcast basket préféré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième quart-temps du premier épisode de la saison 3 de votre podcast basket préféré. Pour ce nouvel épisode, je suis toujours accompagné de mes camarades du soir avec Teddy à ma droite.
Salut les gars, on va parler d'un Australien aujourd'hui, c'est dans l'actu, on n'est pas trop amis avec eux, je sais pas comment on va réagir.
On va essayer d'aller surfer sur les belles plages australiennes et à ma gauche, il y a Benjamin.
Salut les gars, toujours un classique, toujours la même équipe qui gagne.
C'est vrai qu'on pourrait faire une excellente équipe de 3-3. Alors, comme expliqué en introduction, nous allons aborder le sujet Ben Simmons. Alors, il a été très inquiétant sur sa série face à Atlanta. Il aura été également, pour certains, celui qui a coûté la qualification à son équipe. On a tous l'image en tête de sa course ouverte vers le cercle où il préfère finalement ressortir la balle pour un coéquipier. Et alors qu'on parlait de lui dans la course au défenseur de l'année, sa fin de saison a été catastrophique. Et avant, bien sûr, d'aborder les possibles mouvements, les trades et les rumeurs de trade autour de lui, je vais me tourner vers toi, Benjamin. Qu'est-ce que tu penses de la fin de saison de Ben Simmons? Est-ce que tu penses qu'il peut se relever sur le plan de la confiance de cette contre-performance?
Oui, bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose derrière pour Ben Simmons. Déjà parce que, effectivement, cet échec pendant les playoffs et pendant la série face à Atlanta, pour moi, c'était essentiellement psychologique. Parce que tu l'as dit, effectivement, on a tous en tête cette image du tir complètement ouvert qu'il ne réussit pas finalement. Et donc, normalement, ça, c'est des points gratuits, mais au final, donc, c'est pas de points. Et Ben Simmons est tout à fait capable de faire ce genre de choses. Et puis, il y a une question de contexte aussi. Depuis qu'il est arrivé à Philadelphie, il a une pression assez monstrueuse sur les épaules. C'était censé être l'avenir de Philadelphie avant Joel Embiid, finalement. C'était vraiment l'incarnation du process avant qu'on accorde ce titre à Joel Embiid. Il a toujours eu plein de challenges devant lui, c'est-à-dire son tir à 3 points, cette histoire de devenir une superstar, l'idée de devenir un meneur de 2m10. En fait, il y a toujours eu plein de choses à Philadelphie. Alors je me demande si dans une autre équipe, il n'y aurait pas moyen en fait, pour lui de vaincre ces démons-là, enfin progresser et enfin devenir un joueur de basket plutôt décent en playoff.
C'est vrai qu'il a été lâché par Joel Embiid, notamment, tu viens d'en parler, par le coach, par les fans. Joel Embiid avait déclaré à la sortie de la rencontre face à Atlanta, en tout cas à la sortie de la série, je cite, « Je vais être honnête, je pense que le tournant du match était quand, je ne sais pas comment formuler ça, nous avons eu un tir ouvert et ça s'est transformé en lancer franc. » Toi, pour toi, t'es dit, est-ce que tu penses que Ben Simmons, alors il y a eu, tu l'as dit Benjamin, il y a eu beaucoup de pression autour de lui, il y a forcément, je pense, un jour où il va falloir parler de la part, de la franchise des Sixers et de leur fait qu'ils n'arrivent pas à garder un numéro 1 de draft. Donc il y a eu le projet Markel Fultz qui a pris du plomb dans l'aile assez rapidement. En tout cas, il y a toujours un problème de confiance du côté des Sixers. Est-ce que pour toi, tu penses, alors déjà qu'il y a un problème de fond, et je reviens aussi à la question principale, est-ce que tu penses que Ben Simmons peut se relever sur le plan de la confiance?
Ouais, je vais commencer par le négatif. Oui, je pense qu'il y a un problème de fond dans cet effectif, dans ce collectif des Sixers. Alors de forme pas du tout, parce que ça fitait bien, ça, en tout cas sur le papier ça avait l'air de bien fonctionner, et ils ont fait de toute manière une très belle régulière et un début de playoff prometteur, mais effectivement dans le fond, pour parler de Ben Simmons, on sentait qu'il y avait un... Enfin, il y a clairement eu un gros souci dans ce deuxième tour de play-off. Bon, là, on est en train de lui jeter la pierre, effectivement, donc je vais pas en rajouter sur ce qui s'est passé contre les Hawks, bien plus fort ces jours-là. Mais oui, je pense qu'il y a un souci, et clairement, la solution qui se présente à lui, c'est l'unique solution pour moi, c'est de quitter, enfin, et c'est ce qui va se faire, hein, on sait pas où encore, c'est de partir de la franchise. La deuxième question, oui, le point de chute, enfin, pas le point de chute, mais est-ce qu'il va réussir à se relever? Évidemment que oui, drafté seulement en 2016, souvent, oui, on pointe sous shoot à 3 points, mais mis à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y a eu quelques blessures, mais j'ai pas l'impression que ce joueur est complètement fini. Alors peut-être que ça sera jamais le joueur attendu, mais pour le moment, sur le plan individuel, il a jamais non plus déçu. Il a toujours été, il a eu des sélections au All-Star Game, il a eu des sélections dans des All-NBA. Il a déjà prouvé que c'était un défenseur très, 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 très fort. Donc pour moi, il y a de quoi rebondir, il y a de quoi être enfin peut-être. Pas forcément le leader auquel on l'attend, parce qu'offensivement, il y a quelques lacunes, mais en tout cas, quelqu'un qui peut, oui, porter un projet dans un collectif qui vise tout autant que les Sixers, une belle place dans les hauteurs d'une conférence.
Alors, c'est vrai qu'il y a forcément son shoot, on en a parlé, et surtout ses lancers francs. Alors, dans la série, en tout cas dans les playoffs qu'il a eu sur cette année, il est sur un 10 sur 28 face à Washington et un 15 sur 45 face à Atlanta. Alors que, enfin voilà, c'est pas du tout dans ses. Il a jamais été un très très bon tireur de lancer franc puisqu'il peine à passer les 60%. Mais quand même, enfin, je veux dire, il doit avoir cette possibilité d'avoir cette responsabilité sur les épaules, c'est-à-dire en fin de match, d'assumer le fait. Bah qu'il reste un joueur important de l'effectif. Il s'est fait sortir d'ailleurs hein, plusieurs fois dans la série face à Atlanta, dans les moments clés. Benjamin, t'en penses quoi de ça?
En fait, j'ai jamais compris comment c'était possible qu'un joueur NBA puisse être en dessous de 80% au lancer franc, parce qu'ils ont entre guillemets que ça à faire de travailler ça. C'est l'expression brute du tir, et on sait tous que Ben Simmons à l'entraînement est capable quand même de réussir, à mon avis, au moins 50 tirs. Et c'est quand même problématique que dans les moments clés, il s'efface de cette manière. Alors Doc Rivers a raison de le sortir, parce que justement, s'il se met à faiblir, il faut qu'il sorte du terrain, il faut qu'il laisse sa place à des joueurs comme, par exemple, Shaq Milton, qui, lui, en l'occurrence, a eu plus de 100 francs cette série. Enfin, je trouve, en tout cas.
Et, surtout qu'il y avait Atlanta qui faisait une stratégie de hack Simmons hein, à la fin.
Oui, c'est ça. Et c'est en arrivant à de telles extrémités, ça montre vraiment qu'il y a un problème. Donc peut-être technique quelque part, mais vraiment psychologique, parce que un lancer franc pour un joueur d'un tel niveau, quel qu'il soit, à quelques exceptions près de grands pivots qui n'ont jamais eu besoin de travailler ce tir, il doit les rentrer. Oui, Shaq, c'est l'exemple que j'avais en tête évidemment, mais même les mecs comme André Drummond, à la limite, ils ont toujours eu une bonne excuse pour pas bosser leur lancer franc parce qu'ils savaient faire plein d'autres choses et parce qu'ils venaient en NBA pour leur physique, pour leur rebond, etc. Ben Simmons, c'est un extérieur depuis beaucoup de saisons. Il a beaucoup travaillé son tir de son côté. Pourquoi il ne peut pas mettre de lancer franc? À mon avis, c'est strictement psychologique. Il a un travail à faire sur ce plan-là et pour moi, il doit le faire en dehors de Philadelphie. Il n'y a que ailleurs en fait qu'il pourra progresser là-dessus.
Tu me fais un super lancement de Alley-Oop pour la suite du sujet. On va parler forcément des franchises disponibles pour l'arrivée de Ben Simmons. Et celle qui prend la part belle à toutes les autres actuellement dans les discussions, ça semble être les Minnesota Timberwolves. Alors, il y a beaucoup de discussions actuellement parce que Minnesota n'accepterait pas forcément les contreparties réclamées par les Sixers. Les Wolves ont été clairs quant à leur objectif de créer un projet autour de Ben Simmons, mais en incluant Cat, Edwards et surtout D'Angelo Russell. Et c'est notamment à la main que les Sixers auraient besoin de l'ancien meneur des Lakers. Pour toi, Teddy, est-ce que tu penses que l'arrivée de Minnesota, enfin en tout cas l'arrivée à Minnesota de Ben Simmons, est une option viable et intéressante?
Alors, je trouve qu'elle est, pas forcément. Alors, moi, elle est pas forcément plus viable que ça aurait pu être aux Sixers. Enfin, je trouve pas que Simmons Timberwolves ça fit bien. Je sais pas en fait de quoi attendre de ce projet, parce que déjà qu'on se posera cette question des Wolves cette saison, de savoir qui est réellement le leader entre Towns et Edwards. Et là, rajouter, parce qu'on sent que peut-être D'Angelo Russell a une part un peu moins importante sur l'affiche du trio. Et là, on va rajouter Ben Simmons, qui, on attend de lui d'être un leader. J'arrive pas, en tout cas, d'être mis en confiance, j'arrive pas à savoir si... Enfin, moi, je trouve que c'est pas forcément intéressant, surtout aussi pour Minnesota, qui veut de la star, veut de la jeune star, en a encore un peu, mais je trouve pas que avoir Ben Simmons plus que D'Angelo Russell, ça le fasse mieux, dans le sens en plus où D'Angelo Russell, le trio Russell, Edwards, Towns n'ont pas énormément joué ensemble. Et pour moi, j'attends justement de cette année des Wolves qui progressent ensemble, qu'ils évoluent enfin tous les trois hors blessure. Et j'aurais pas, j'ai l'impression qu'on va pas avoir cette chance-là cette saison. En tout cas, si Simmons part aux Wolves et que D'Angelo Russell arrive aux Sixers, je trouve que les Sixers vraiment ont réussi leur pari parce qu'on sait très bien de toute manière qu'ils veulent se débarrasser de Simmons. Là, il n'y a pas d'autre solution possible.
Alors, je te cache pas que je suis ton avis côté Sixers et que effectivement se débarrasser de Simmons pour un meneur de la qualité de D'Angelo Russell pour être un bon deal. Côté Timberwolves, perso, je suis vraiment pas d'accord avec toi, parce que je pense que Ben Simmons est la réponse à toutes les lacunes du collectif des Wolves. C'est-à-dire que Kat n'est pas un pivot très défensif, et ça va pareil pour D'Angelo Russell, qui n'est pas un très bon défenseur. En l'occurrence, Ben Simmons est quand même peut-être le défenseur le plus polyvalent de la NBA à l'heure actuelle. Il peut vraiment venir changer cette défense des Wolves, la transformer, et surtout suppléer derrière D'Angelo Russell à la création, soit avec quoi, à mon sens, en tout cas, il a un peu de mal. Et derrière ça, en fait, je vois pas de raquette plus complémentaire que Ben Simmons et Karl Anthony Towns. Bon, c'était un petit peu abusé de dire ça comme ça, mais en tout cas, les deux sont très fonctionnels ensemble parce qu'ils comblent chacun les lacunes de l'autre. En fait, Towns aime ses cartes de panier.
Je me permets juste par rapport à
oui,
ça,
vas-y,
un petit point très rapidement. Ça veut dire que, selon toi, il y a vraiment une nécessité de passer Ben Simmons au poste 3-4 et de ne plus lui laisser la seule responsabilité du poste de meneur.
J'ai l'impression que ça a vraiment échoué à Philadelphie de lui donner cette responsabilité-là. On a vu qu'il n'était pas forcément fait pour ça. Alors peut-être que ça peut être intéressant de mener à nouveau l'expérience, mais pour moi, en fait, Ben Simmons, c'est un joueur tellement plus intéressant sur le poste 3-4 parce qu'il a des qualités assez uniques, assez recherchées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut des ailiers créateurs, on veut des ailiers défenseurs. Il est capable de jouer, enfin, d'être un candidat sérieux au titre de meilleur rebondeur d'une équipe en particulier. C'est vraiment un joueur polyvalent, et donc à mon avis au poste 3-4 il pourra mieux servir son équipe défensivement et sûrement mieux la servir offensivement, là où on s'attendra à moins de shoot de sa part, ce qu'il peut pas faire manifestement, et où il pourra plus jouer à l'intérieur. Donc pour moi, s'il est couplé avec un poste 5 fuyant comme Kat, comme Nikola Jokic, comme plein de joueurs dans la ligue actuellement, Ben Simmons est un poste 4 plutôt idéal.
Je voulais juste rebondir justement, si effectivement il y a cette idée de le mettre dans un poste 4, oui effectivement t'as raison, ça peut effectivement très bien fitter. Juste du coup, moi je vois pas Ben Simmons arriver chez les Wolves sans que D'Angelo Russell soit tradé à sa place. Et c'est pour ça qu'après je vois un déséquilibre sur les postes arrière, que ça soit offensif, enfin défensif du coup moins, parce que l'arrivée de Ben Simmons évidemment c'est beaucoup mieux, mais je vois du coup un déséquilibre sur la création. Je vois pas Ben Simmons du coup prendre ce rôle à la création. Anthony Edwards, pas dès l'année prochaine, en étant vraiment un joueur efficace, et du coup le reste de l'effectif non plus. C'est juste plutôt ça effectivement.
Et justement, quelles pourraient être les contreparties dans ce transfert, Benjamin? Pour toi, est-ce que, alors c'est pas un effectif qui est non plus très très fourni du côté du côté des Wolves, donc pour toi, si D'Angelo, Anthony Edwards et Kat restent dans l'effectif, qui est-ce que tu envoies? En tout cas, quelles pourraient être les contreparties intéressantes pour les deux parties?
Je te cache pas que personnellement, quand je parle de Ben Simmons aux Wolves avec ces trois joueurs, c'est vraiment une situation pour moi idyllique, parce que je vois vraiment absolument aucun moyen que les Sixers cèdent dans ce transfert. La contrepartie qui évidemment est toujours mise sur la table, c'est Malik Beasley, qui est bien sûr un arrière qui pourrait effectivement venir aider les Sixers sur les lignes extérieures, mais à mon sens c'est pas du tout ce qu'ils cherchent, sachant qu'à la base ils visaient des joueurs comme Damian Lillard, ils visaient des joueurs comme D'Angelo Russell. Je comprendrais pas que les Sixers acceptent une offre sans D'Angelo Russell. En fait, pour moi ce serait une erreur pour les Sixers d'accepter n'importe quelle autre offre de transfert de la part des Wolves, parce que ça peut venir avec des picks de draft, ça peut peut-être venir avec des joueurs intéressants comme Malik Beasley justement, mais en revanche je vois vraiment pas comment ça pourrait aider les Sixers à gagner maintenant, parce que c'est ce qu'ils cherchent, sans ramener D'Angelo Russell. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment une impasse, cette histoire de transfert. Et les Wolves, tant qu'ils s'accrochent à cette idée de garder D'Angelo Russell, ne pourront pas récupérer Ben Simmons.
On pourrait pas trouver quelque chose d'assez positif, dans le sens où, toi, tu penses quand même que il pourrait être un autre asset, enfin un asset intéressant. Si ça fonctionne pas du côté des Wolves, en tout cas, ça pourrait fonctionner ailleurs.
Ah oui, c'est ça. Je pense que j'espère effectivement que les Sixers vont pas accepter d'échanger Simmons contre justement tout sauf D'Angelo Russell ou une autre pièce des Wolves, parce que justement Ben Simmons, là on est sur la culture de l'instant, on voit que le négatif, mais ça reste un excellent joueur de basket et je pense qu'il intéresse énormément de franchises. On ne peut pas me dire que toutes les franchises à un mois pile du retour de la NBA sont toutes prêtes, hein, avec un effectif de fou pour viser les playoffs. C'est pas possible. Enfin, c'est de toute manière, c'est faux. Donc, je pense qu'il y a effectivement pas mal de franchises qui soient dans les rumeurs ou non. On va en évoquer quelques-unes qui peuvent être intéressées par Ben Simmons.
Donc, du coup, pour toi, quelles seraient les franchises en tout cas où tu verrais Ben Simmons s'intéresser?
Ben, là, tu vois, t'as parlé justement de Portland qui effectivement a un effectif assez lourd, mais pas forcément de stars à vouloir échanger. Quoique, il y a toujours ce problème avec CJ McCollum, on ne sait pas trop ce qui fait encore là dans la franchise, dans le collectif pour viser un peu plus haut. Peut-être que ça fitterait encore mieux en ayant ce combo Lillard Simmons. Il y a aussi, et puis ça passerait financièrement, je pense, avec McCollum et un autre joueur, et tout le monde serait gagnant entre Sixers et Trailblazers. Il y a aussi, justement, je pensais aux Raptors, parce que les Raptors, je vois pas non plus ce qu'ils peuvent espérer cette année. Un peu, je trouve, dans le même niveau que Portland, c'est-à-dire qu'on essaye de viser les playoffs, mais ça va être très compliqué dans leur conférence. Il y a quelques jours à pouvoir bouger, hein, chez les Raptors, il n'y en a pas non plus énormément, mais il y a quelques joueurs qui peuvent peut-être se retrouver et plaire comment on appelle ça aux Sixers. Bon, il y a pas mal de joueurs qui veulent être que Toronto souhaite développer, on le sent bien, mais ça va pas être possible que tous ces joueurs s'y retrouvent. On a Anunobi, évidemment Siakam, Boucher, des joueurs aussi des guards. Je sais qu'il y a Goran Dragic qui est tombé chez les Raptors, mais je sais pas s'il peut être transféré dès maintenant. Enfin bref, c'est les deux franchises où je me dirais ça serait plutôt intéressant des deux côtés de trouver un deal.
Je pense que dans tous les cas, si on a vraiment un deal avec les Raptors ou avec les Blazers, ça passe par un contrat max qui sort. Du coup, pour moi, c'est vraiment Pascal Siakam, qui a priori aurait été proposé à plusieurs équipes d'après Jake Fisher du Bleacher Report. Et donc, ce serait logique qu'il le propose à Philadelphie. Et pourquoi pas, à ce moment-là, peut-être pour Philadelphie, c'est quand même une offre plus intéressante que celle des Wolves, typiquement. Pareil pour CJ McCollum, on a aussi les Kings qui ont Buddy Hield sur la table, et peut-être Davion Mitchell, qui est quand même un joueur NBA ready, qui n'est pas un meneur-créateur monstrueux, mais voilà. Peut-être que Goran Dragic, lui, sera disponible sur le marché des buyouts en milieu de saison, pour les récupérer sur un petit contrat, et lui, qui espérera tenir un rôle titulaire dans une équipe contender. Ensuite, on a aussi les Warriors, évidemment, mais eux, ils vont devoir sacrifier Andrew Wiggins, et là, je vois moins la compatibilité avec l'effectif des Sixers. Dans tous les cas, il y aura sûrement des picks de draft qui entourent tout ça, et puis bien sûr, tu as toutes les équipes comme, je sais pas, les Spurs ou autres équipes en reconstruction qui vont se proposer pour envoyer leurs derniers assets un peu compétitifs. Pour les Spurs, je pense à Derek White, à Dejounte Murray. Je ne suis pas sûr que ce soit très convaincant, mais avec quelques tours de draft, ça pourrait passer si les Sixers n'en ont rien en milieu de saison. En fait, cette histoire, elle va vraiment prendre du temps et il va vraiment falloir trouver un équilibre à proposer aux Sixers entre compétitivité, parce que c'est ce qu'ils veulent vraiment cette saison, et en même temps, éventuellement, des tours de draft qui pourront leur donner des garanties pour refaire des trades derrière, pour réajuster cette équipe et ne pas se vider de leurs ressources. Donc pour moi, en fait, cette situation est très compliquée. Il va vraiment falloir monter les enchères jusqu'au milieu de la saison, peut-être. On verra quand est-ce que ça saute. Mais les Sixers vont peut-être reprendre un peu de force sur le marché grâce à cette accumulation d'équipes qui pourraient être intéressées.
Donc toi, tu penses que les Sixers, ils vont débuter la saison avec Simmons dans l'effectif?
Je pense qu'ils vont pas avoir le choix finalement. C'est-à-dire que même s'ils refusent de jouer, c'est un peu comme James Harden et Houston l'année précédente, ils vont devoir commencer la saison avec Ben Simmons, parce que sinon c'est une situation dans laquelle ils vont être obligés de brader leurs joueurs. Pourquoi les Raptors par exemple leur donneraient Pascal Siakam alors que les Sixers, eux, sont dans une situation de crise dans laquelle ils attendent vraiment quelqu'un? En fait, c'est un peu compliqué et ils risquent de trouver une offre très très diminué s'ils veulent se presser. Et je pense que c'est pas le genre de Daryl Morey.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris le temps, parce que tout l'été ça a été des rumeurs de transfert. Enfin, ça fait 3 mois enfin 2 mois depuis leur élimination qu'il y a une sorte de, qu'on sent la séparation. Ils ont eu le temps de réfléchir à un transfert.
Oui, ils ont le temps de réfléchir à un transfert, je pense, mais ils n'ont pas le temps de faire monter les enchères, étant donné que les équipes d'en face ne sont pas pressées, parce qu'ils attendent que les Sixers soient mis dos au mur. Et là, il va y avoir vraiment un jeu de force entre les Sixers, qui vont devoir donc fonctionner avec ce Ben Simmons qui ne veut pas jouer pour eux, et les autres équipes qui veulent récupérer Ben Simmons, qui donc est inintéressant pour les Sixers, et qui vont pouvoir baisser leurs offres. Et en fait, ce jeu-là, il va se poursuivre pendant, à mon avis, en tout cas quelques semaines, le temps qu'une équipe finisse par dire « Bon, ça suffit, nous aussi, on a besoin d'avoir notre joueur maintenant, donc on va mettre un peu plus que les autres équipes et prendre Ben Simmons. » Je pense que les Sixers attendent ce moment où une équipe va céder pour leur faire l'offre qu'ils attendent.
Il y a aussi quelque chose qui va être important de regarder, c'est que dans une petite équipe, entre guillemets, en tout cas dans un petit marché, Ben Simmons va pas forcément être très intéressé d'aller dans une franchise là-bas, dans une franchise en reconstruction. Donc potentiellement, il pourrait faire, bon, après, l'aventure de Kawhi s'était bien passée à Toronto, mais ça pourrait être un contrat un peu pourri avec un joueur qui n'a pas forcément envie de jouer et au final qui se barre au bout d'un an, voire 2 ans. Donc du coup, un gros problème au sein de l'effectif, en tout cas. Ça va être forcément très intéressant, hein, Benjamin, tu l'as très bien dit, il va y avoir beaucoup de choses il va se passer beaucoup de choses avant qu'on ait enfin la décision autour du contrat de Ben Simmons. En tout cas, nous, on sera forcément là pour l'analyser.
Une petite intervention juste par rapport à ce que tu disais il y a 2 secondes, parce que ça m'intéresse en fait. C'est vrai que la différence entre Kawhi et Ben Simmons dans cette situation, c'est aussi que là, en l'occurrence, on offre un Ben Simmons qui a 4 ans de contrat à une équipe. Donc, c'est pas tout à fait ce truc de il peut partir dans 1 an, dans 2 ans, il peut demander son transfert, mais à voir ce que l'équipe d'en face laisse faire. Mais en fait, on arrive avec un joueur qui présente des garanties, d'où l'intérêt de petits marchés comme les Kings ou comme les Wolves, et d'où justement cette pression que peuvent mettre les Sixers sur les autres équipes. Enfin, je te laisse terminer, je suis désolé, je voulais juste caler ça parce que je trouve ça important le contexte.
T'as raison, de toute façon, c'est la reprise, hein, vous nous excusez, nos amis auditeurs, mais on se lance forcément, on se rôde, hein, sur ce premier épisode de la saison 3, mais forcément, ça va être intéressant de regarder. Moi, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup aussi de... Ils sont un peu frileux, les franchises sont peut-être un peu frileuses de recruter Ben Simmons. On a vu forcément les garanties qu'il pouvait apporter. Alors, quand il est en saison régulière, ça va, mais en playoff, ça n'allait pas du tout. Donc, on l'a vu aussi, hein, du côté de Markel Fultz. Après, il y a eu les blessures de Markel qui l'ont peiné, mais ça a été compliqué dans ses premières années à Orlando. Ça allait mieux, là, il se reblesse. Si Ben Simmons arrive complètement... avec une confiance en lui qui est très très basse et qui met du temps à retrouver son rythme, forcément il va y avoir un peu de lassitude, hein, du côté de Ben Simmons. Donc en tout cas, on va regarder ça et on en parlera forcément dès que le trade aura lieu dans peut-être, selon Benjamin, d'ici quelques mois. Le buzzer du deuxième quart-temps retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième partie du premier épisode. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyste pour nous donner votre avis sur le futur trade de Ben Simmons et peut-être les prochaines équipes qui pourraient être tentées pour le recruter. Rendez-vous également sur notre site l'analyste.fr. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour la deuxième mi-temps. Bonne journée à vous. Salut !